Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.
Les ossements du petit Émile ont été découverts hier à proximité du hameau du Auvernais dans les Alpes de Haute-Provence. Annonce du procureur de la République, et le petit garçon, 2 ans et demi au moment de sa disparition, n'avait plus été vu depuis juillet dernier à proximité de ce hameau où habitent ses grands-parents.
Bonjour, c'est une disparition qui garde sa part d'ombre, même si après 9 mois de recherche et d'interrogation, le voile s'est enfin déchiré. Samedi 30 mars 2024, les restes du corps d'Émile Soleil, 2 ans et demi, ont été retrouvés à presque 2 kilomètres de la maison de ses grands-parents, le dernier endroit où il avait été vu vivant avant que sa silhouette s'efface brutalement dans le décor sauvage d'un hameau de Haute-Provence. Plus de spéculation donc sur le sort réservé au petit garçon, même si le dossier est très loin d'être clos. Il va désormais falloir reconstituer le chemin que l'enfant aurait pu emprunter, savoir s'il était seul ou accompagné, établir si le corps était là depuis le début ou s'il a pu être transporté. Autant de questions qui sont désormais entre les mains des légistes et des anthropologues. Ils détiennent peut-être la clé de ce mystère. Pourquoi est-on passé à côté de ce corps? Pourra-t-on un jour savoir précisément ce qui s'est passé? Question posée aujourd'hui à nos invités. L'affaire du petit Émile Soleil, la mort au creux de la montagne. Le souci, c'est qu'on s'est retrouvé à 100 de personnes dans la zone ce soir-là. Ça a brouillé les pistes. L'enquête aujourd'hui de l'heure du crime, la seule émission radio 100% fait divers, à tout de suite sur RTL.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Et l'heure du crime.
En direct dans l'heure du crime aujourd'hui, les derniers éléments sur l'affaire du petit Émile, disparu à l'été 2023 dans un hameau de montagne des Alpes de Haute-Provence, début d'une enquête à rebondissement. Presque 9 mois après, des restes de l'enfant sont découverts sur place, en pleine nature. Dimanche 31 mars 2024, 9h30, Marie et Colomban Soleil, qui s'apprêtent à assister à la messe de Pâques dans la petite église Saint-Charles à Marseille, sont contactés par les gendarmes. Il leur est demandé de rentrer chez eux à la Bouilladis pour une annonce importante. Les parents d'Émile apprennent alors ce qu'ils redoutaient depuis près de 9 mois. Des restes du corps de leur fils ont été découverts en contrebas du hameau du Auvernais, à 30 kilomètres de Digne-les-Bains. Deux expertises ADN effectuées dans la nuit sur les ossements ne laissent pas de place au doute. C'est une randonneuse qui se promenait samedi 30 mars sur un petit chemin forestier, uniquement accessible à pied, entre le Auvernais et le col du Labouret, qui a fait cette découverte. Dans ce paysage escarpé de caillasses et de forêts qui avait été inspecté à plusieurs reprises lors des battues, elle est tombée sur un crâne de petite taille qui émergeait de la végétation. Elle a aussitôt alerté les gendarmes. Un légiste et des techniciens de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie, l'IRCGN, sont restés plusieurs heures sur place pour photographier et filmer le lieu. Ils ont été rejoints par 30 de gendarmes qui, dimanche, ont commencé à ratisser la zone à la recherche d'indices, d'autres ossements et de restes de vêtements que portait la petite victime. Le crâne, plutôt bien conservé et muni de sa dentition, a été transporté par hélicoptère jusqu'au laboratoire de l'IRCGN à Pontoise, en région parisienne. Le squelette est absent à 90%. Il pourrait avoir été disséminé à plusieurs endroits par des animaux sauvages. Dans les heures qui suivent l'annonce des enquêteurs, Marie et Colomban Soleil se recueillent en famille, en compagnie notamment des grands-parents d'Émile, Anne et Philippe Vedovini, un couple qui, depuis le début de l'affaire, s'est retrouvé dans la tourmente. Le 8 juillet 2023, à 18h20, la grand-mère est la première à prévenir les gendarmes de la disparition d'Émile. Elle indique que son petit-fils a échappé vers 17h30 à la surveillance de son grand-père. Les premiers gendarmes sont sur place 20 minutes après le coup de fil. Ils prennent le signalement de l'enfant, un petit blond vêtu d'un t-shirt jaune et d'un short blanc à bouton pression. Les recherches sont immédiates mais peu coordonnées. Des dizaines de volontaires qui habitent dans le coin se présentent spontanément au Auvernais pour aider la famille à retrouver le disparu. Le souci, c'est qu'on s'est retrouvé à 100 de personnes dans la zone ce soir-là. Ça a brouillé les pistes, va confier un gendarme au journal Le Parisien. Lundi 10 juillet, après 36 heures de recherche, les dizaines de gendarmes déployés sur le terrain ainsi que les volontaires n'ont détecté aucune trace du petit Émile Soleil. Un premier chien de recherche, au total il y en aura 6 de races différentes utilisées sur place, a marqué un arrêt à une soixantaine de mètres de la maison, presque à hauteur de la fontaine qui autrefois servait de lavoir, à quelques mètres donc de la départementale 457 qui dessert le village du Vernet. Émile a-t-il été emporté par quelqu'un à ce croisement ou bien a-t-il remonté à pied la seule rue du hameau pour rejoindre une petite cabane dans laquelle il aime jouer? Ou encore, s'est-il acheminé vers le Bas-Vernet, ses quelques maisons en contrebas du village? C'est bien après ses dernières habitations, dans un secteur sauvage qui s'avance dans la montagne à proximité de l'étroit chemin de randonnée, que le crâne a été découvert. Et on va voir que cette découverte n'apporte hélas pas encore de réponse à toutes les questions qui se posent et qui perdurent depuis le début de cette affaire, des enquêteurs toujours sur la brèche. On va voir dans le chapitre suivant de l'heure du crime que toutes les hypothèses continuent à être étudiées. Alors, il y a cette toute première question qui se pose, et je la pose aujourd'hui à notre premier invité, c'est Maxime Lévy. Bonjour Maxime Lévy.
Bonjour.
Journaliste police-justice à RTL. Vous allez nous aider parce que vous êtes allé sur place à plusieurs reprises dans ce hameau perdu des Alpes de Haute-Provence. Question élémentaire, je sais qu'on la pose depuis 48 heures, mais il faut la reposer et encore la reposer parce qu'elle n'a toujours pas de réponse. Ce coin de découverte du crâne, est-ce qu'il a été véritablement ratissé ou pas? Ou bien est-ce qu'on est passé à 150 mètres dans cette montagne?
Ce qui est sûr, c'est que tout a été fouillé, tout a été ratissé. Le petit garçon, le petit Émile, disparaît le 8 juillet. Il faut savoir que jusqu'à la fin juillet, les campagnes de fouilles n'ont de cesse de continuer. À la fois en battue citoyenne, plus de 600 personnes qui ont été mobilisées, et à la fois les gendarmes qui mobilisent des moyens assez extraordinaires, des caméras thermiques, des drones, des chiens renifleurs, etc. Et donc, il y a plus de 97 hectares qui ont été fouillés, et cet endroit, en tout cas la zone qui entoure cet endroit, en fait partie.
Alors, il y a ce crâne qui est découvert. Thomas Proto, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous également dans le studio de l'heure du crime aujourd'hui. Vous êtes journaliste et chef du service police-justice à RTL. Vous donc pilotez les investigations à la rédaction de RTL concernant ce dossier. On trouve un crâne, ça c'est une certitude.
Juste un crâne.
Voilà. Et les ossements, on n'en trouve pas du tout pour l'instant?
Alors, selon ce qu'on nous a rapporté hier, puisque entre-temps il y a eu des recherches, selon ce qu'on nous a rapporté hier, c'est que la randonneuse au bord du sentier, de ce petit sentier peu emprunté, ne trouve que le crâne d'Émile, muni de sa dentition, vous l'avez dit, et rien d'autre. Rien d'autre, en tout cas, dans ce qu'elle a découvert à cet endroit.
Et on sait que c'est important de découvrir la suite, si je puis dire.
Mais c'est fondamental, en fait.
C'est capital. Hein.
C'est absolument capital, parce que c'est ce que vont d'ailleurs rechercher les gendarmes qui sont en train d'être déployés. Attention, hein, ça prend du temps d'organiser ces recherches, de quadriller, on ne fait pas n'importe comment. Vous vous souvenez, vous avez cité ce gendarme qui dit on était 100 le soir des premières recherches, on a un petit peu foulé le sol, un peu, pas n'importe comment, mais enfin,
non,
on sent qu'il y a pu avoir des...
Dans la précipitation,
ça peut être
il faut
un peu
agir.
Pollué, voilà, il faut agir. Là, il n'y a pas de précipitation, il faut organiser les choses et trouver les autres ossements pour comprendre si le crâne a été déplacé, pourquoi il a été déplacé, pourquoi là, et éventuellement aussi peut-être d'autres objets, des vêtements, pourquoi pas des vêtements avec des boutons en métal comme son short, ce genre de choses. Tous les indices maintenant sont ultra précieux puisqu'on sait qu'Émile est décédé.
Et bien sûr, on continue à explorer cette découverte qui est capitale, vous venez de nous le dire, Thomas Proto. Bonjour Général François Daoust.
Bonjour Jean-Alphonse.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui dans l'heure du crime. Ancien directeur de l'IRCGN, je l'ai dit, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale et co-auteur avec notre ami Jacques Pradel du livre Police Technique et Scientifique, Le Choc du Futur, qui a été publié aux éditions du Rocher. François Daoust, pardon pour ce détail macabre, mais le crâne d'un petit garçon de 2 ans et demi, c'est environ 10 centimètres de moins que celui d'un adulte. Est-ce qu'on a pu passer à côté?
Alors, est-ce qu'on est passé à côté? Je ne pense pas. Il faut savoir que c'est une zone qui a été bien ratissée, une zone de passage, et on ne trouve qu'un crâne. On ne trouve pas les autres ossements. Il faut savoir que dans la nature, hélas, quand quelqu'un se perd ou fait une chute et décède, eh bien, plusieurs mois après, ces os sont éparpillés pour plusieurs raisons. La première, c'est la prédation. Il faut savoir qu'il y a des animaux, la nature reprenant son cours, viennent se nourrir des restes humains, et à partir de là, eh bien, ils amènent la partie qu'ils ont attrapée, la dévorée, à un autre lieu que la dépouille. Mmh. Ce qui fait que ça peut être largement en amont ou largement en aval. Mmh. La deuxième chose, c'est il y a eu là, les semaines précédentes, plusieurs épisodes méditerranéens avec des chutes de pluie très importantes. Mmh. Là aussi, un ravinement, eh bien, a pu être la cause du déplacement de la boîte crânienne.
Ça veut dire, François Daous, que les intempéries, la neige, la pluie, le climat ont pu modifier cette scène de découverte ?
Oui, parce que c'est la scène de découverte du crâne et pas du reste. Donc il y a encore à découvrir, c'est pour ça que sur place, il y a des équipes spécialisées qui sont en train de remonter en amont, de faire tous les cheminements possibles et tous les ravinements et les petites alvègues dans lesquelles le petit Émile eh bien, a pu tomber mourir. Et on remonte comme ça, et l'aval sera fait, parce que si le crâne est descendu, eh bien, il peut y avoir d'autres choses qui ont été amenées plus loin, soit par un animal, soit par les intempéries.
Par les intempéries ou le mauvais temps. Maxime Lévy, on a dit, on ne retrouve pas d'autres os que le crâne. On est là à 2 km à peu près de la maison des grands-parents.
Un peu moins d'un kilomètre, de 2 km environ, entre 1 et 2 km.
C'est ça, à vol d'oiseau, on est dans ces eaux-là. Un petit garçon peut marcher aussi longtemps? Ça descend, là, le paysage, il descend, non, vers ce sentier?
C'est effectivement une très bonne question, ça dépend de quel côté Émile est parti. S'il est parti, alors il y a des zones où ça monte, où ça descend, ça dépend vraiment. Mais si c'est une zone, s'il a pu emprunter une zone où ça descend, il a pu emprunter une zone où il n'a pas, par exemple, le soleil dans les yeux, et là, il a pu effectivement marcher plusieurs centaines de mètres, un petit kilomètre, un peu plus. Ce qui peut paraître beaucoup, mais c'est tout à fait possible.
Bonjour docteur Caroline Rambaud.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous en direct dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes médecin légiste à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Alors évidemment, vous êtes légiste et merci de nous accorder quelques minutes parce que vos informations nous sont précieuses. On a là affaire à un crâne unique, il n'y a pas d'autres ossements. On est dans le cadre d'une enquête judiciaire. Quelle mission avez-vous avec ce crâne? Quelles sont les premières analyses que vous pratiquez?
Alors, les premières analyses, ça va déjà être uniquement, en fait, l'examen externe, de savoir s'il y a une lésion traumatique décelable ou pas, et de voir ce qui reste exactement sur le crâne, s'il est entier, s'il est bien interprétable. Et voilà, donc à la recherche d'une lésion traumatique, un trou, un enfoncement, une fracture, quelque chose qui pourrait donner une indication sur la cause de la mort.
Est-ce qu'il y a des fractures ou des fissures qu'on ne voit pas comme ça à l'œil nu et qui peuvent s'avérer fatales?
Qu'on ne voit pas à l'œil nu sur le vivant?
Non, lorsque vous avez ce crâne devant vous, le crâne...
Ah oui, non, à partir du moment où il y a une lésion traumatique, ça veut dire qu'il y a eu un coup qui a été porté.
D'accord.
Un coup, une chute, enfin un choc. Donc ça veut dire qu'il y a eu potentiellement une hémorragie sous-jacente, soit un hématome intracrânien, hématome extradural, soit éventuellement une hémorragie méningée, voire une contusion cérébrale associée.
Alors restez avec nous, docteur Caroline Rambaud, parce qu'on va vous retrouver dans cette heure du crime, des enquêteurs qui vont tout faire pour reconstituer le chemin emprunté par l'enfant. Dimanche 31 mars 2024, lendemain de la découverte du crâne identifié comme étant celui du petit Émile, les légistes et les anthropologues de la gendarmerie sont à pied d'œuvre pour examiner cet ossement. Après un examen de surface destiné à déterminer toute trace de coup ou de frottement, cet élément du squelette commence à être soumis à une longue série d'expertises, datation possible du décès, nombre de jours au cours desquels le crâne est resté à l'extérieur, dommages possibles causés par des intempéries ou la présence d'animaux. Expertise pour savoir encore si le lieu de découverte des ossements est celui où l'enfant est décédé ou si sa dépouille aurait pu être transportée. Autant de scénarios que les spécialistes de médecine légale passent en revue. C'est une étude longue et fastidieuse, mais c'est un passage obligé. Elle peut donner certaines clés pour comprendre ce qui s'est passé. La découverte d'autres ossements, si ces derniers n'ont pas été détruits ou disséminés, cette découverte serait éminemment précieuse, confie un enquêteur. Le procureur d'Aix-en-Provence, Jean-Luc Blachon, laisse entendre qu'aucune des pistes ouvertes par les gendarmes un accident pur et simple, un accident provoqué par entière, ou même un crime qu'aucune de ces pistes n'est refermée. Depuis samedi, toutefois, les contours de l'enquête sont redessinés. La priorité est désormais de reconstituer le chemin possible emprunté par Émile à partir de l'heure approximative de sa disparition, samedi 8 juillet 2023, à 17h30. S'il était seul, il aurait marché presque 2 km avec le soleil dans le dos depuis la maison des grands-parents. Il aurait pu emprunter ce sentier forestier qui démarre non loin des dernières maisons du hameau. Un chemin connu des gens du coin, ce lieu de randonnée était fréquenté par la famille du petit garçon, ses parents, ses grands-parents, ses nombreux cousins. Si tel est le cas, les enquêteurs vont devoir établir ce qui a pu arriver à l'enfant qui aurait été désorienté, en déshydratation. Il aurait pu sombrer dans un coma irréversible. Dimanche 31 mars, une centaine de gendarmes, dont 30 du groupement de gendarmerie des Alpes de Haute-Provence, bouclent à nouveau le village pour pouvoir baliser le périmètre de la découverte du crâne. Cette zone, ravinée par les récentes pluies, est strictement interdite d'accès. Lundi 1er avril, des chiens de recherche, malinois, Springer Spaniels, sont déployés sur le terrain. À ce stade, la découverte du crâne du petit Émile ne suffit pas à lever les doutes et à éliminer un possible acte criminel, hypothèse selon laquelle Émile ne se serait jamais aventuré seul sur ce chemin, mais il y aurait été déposé, hypothèse qui persiste, et alourdit le lourd climat qui règne au Haut-Vernay, un village lassé d'être coupé régulièrement du monde extérieur et de demeurer sous surveillance. Et évidemment, ça fait beaucoup de questions et des questions nouvelles qui apparaissent dans les rangs des enquêteurs. Il va falloir trouver des réponses et ça n'est pas si simple. On rejoint tout de suite le docteur Caroline Rambaud qui est en ligne avec nous dans l'heure du crime. Docteur Caroline Rambaud, je le rappelle, vous êtes médecin légiste à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et vous nous éclairez un petit peu sur les questions techniques qu'on peut se poser. Alors, on sait que vous nous avez dit qu'il y a ce premier examen de surface du crâne. Est-ce que, docteur Rambaud, est-ce qu'on va pouvoir dater depuis combien de temps ce crâne est à l'air libre ?
On va pouvoir estimer approximativement la datation. C'est très, très large comme intervalle. S'il y avait des insectes au contact du crâne, ça aiderait parce que ça permettrait de travailler pour les entomologistes, de se rapprocher de l'heure du décès, du jour du décès.
Bien sûr. Allez-y, docteur, excusez-moi.
Non, je vous en prie.
On sait qu'il y a aussi, les gendarmes ont recueilli un peu de terre de l'endroit où est le crâne, des éléments du sol. Ça peut aider aussi à la compréhension de ce qui a pu se passer, ou en tout cas la datation.
Oui, ça peut aider déjà pour savoir si la terre qui est au contact du crâne à l'extérieur correspond aux peut-être débris de terre qu'il pourrait y avoir à l'intérieur du crâne, savoir si c'est le même endroit ou pas.
Et est-ce que vous nous avez dit on peut peut-être déterminer depuis combien de temps il est là. Est-ce qu'on peut dire si ce crâne a été manipulé par des animaux, oui, est-ce qu'il y a eu une intervention humaine? C'est sans doute compliqué, on pourrait le voir sur des fractures éventuellement, mais là on n'a pas tout le corps, et ça c'est le squelette manquant, c'est vraiment dommageable.
Oui, c'est très ennuyeux parce qu'il y a quand même beaucoup d'os dans un squelette, et le tout c'est de savoir s'il y a des lésions traumatiques ou pas qui pourraient être indicatives de quelque chose. Alors c'est sûr que d'avoir le crâne, c'est déjà un élément fondamental parce que c'est l'endroit où s'il y a une lésion traumatique, qui est le plus à même d'expliquer la cause du décès. Donc c'est déjà un élément considérablement important d'avoir ce crâne.
Et dernière question, docteur Caroline Rambaud, ce crâne, la dentition paraît intacte, hein, je n'ai pas confirmation sur ce point, ça veut dire qu'il n'y a pas eu peut-être de choc porté au visage par exemple ?
Éventuellement qu'il n'y a pas eu de traumatisme, en tout cas maxillofacial. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de coup porté au visage. Les dents sont insérées sur les mâchoires. La mâchoire n'est qu'une petite partie de l'ensemble du crâne. Donc c'est que les dents soient présentes veut dire qu'il n'y a pas eu de traumatisme direct sur le massif facial, et notamment sur, ça doit être la mâchoire supérieure qui est retrouvée, qui est partie prenante du crâne, et ça n'exclut pas qu'il n'y ait pas une lésion traumatique ailleurs.
Général François Daouze, vous êtes également notre invité dans cette heure du crime, ancien directeur de l'IRCGN, vous connaissez bien ces problématiques de recherche. Question vraiment de béotien, parce que ça, mais qui nous intrigue, est-ce qu'un enfant de 2 ans et demi, ça peut marcher aussi longtemps dans un paysage accidenté?
Alors un enfant de 2 ans et demi, contrairement à ce que instinctivement chacun imaginerait, ça peut marcher et ça peut marcher vite. Alors c'est relatif avec les petites jambes de l'enfant. Et longtemps, ça peut faire 2-3 kilomètres avant de s'arrêter, fatigué, etc.
Thomas Proutot, journaliste et chef du service police-justice à RTL, il ne souffrait apparemment d'aucune pathologie, le petit Émile.
Pas qu'on le sache, effectivement.
Voilà, il était en bonne santé, et assez vif d'ailleurs, puisque c'était un gamin masque, même un petit peu turbulent. Émile, il a pu être tout à fait désorienté, se retrouver tout seul dans cette montagne, et puis ne pas savoir où il va, il a 2 ans et demi.
Eh bien, oui, c'est d'ailleurs l'hypothèse qui est suivie depuis le départ. C'est possible de plein de manières, c'est ça qui est un peu extraordinaire dans ce que on dit, on redit depuis hier, depuis cette découverte. C'est la distance. La distance entre 1 et 2 kilomètres. C'est frappant puisque ça laisse entière les deux hypothèses, l'hypothèse de l'accident et l'hypothèse d'une intervention d'un tiers. C'est tout à fait, d'une certaine manière, extraordinaire puisque c'est compatible avec cet enfant qui serait désorienté, qui a suivi, on ne sait pas, un papillon, quelque chose, un chien, enfin qui a gambadé et puis après couru dans cette pente rocheuse. Par ailleurs, ce crâne, il est tout seul. Pourquoi est-ce qu'il est tout seul? Et pourquoi est-ce que on repose la question? Le général Daouze disait que c'était possible d'être passé à tout côté, mais tout de même, les moyens engagés ont été colossaux. Donc, on est là face à de nouvelles questions, ce qui rend d'une certaine manière cette affaire Émile, dont on vous parle très régulièrement, mais pourquoi on vous en parle? Parce que il y a un mystère, un vrai mystère au vrai sens du terme, et elle est tout à fait extraordinaire, elle continue à l'être avec des questions sans réponse.
Maxime Lévy, journaliste police-justice à RTL, je rappelle que vous êtes allé plusieurs fois sur place et vous connaissez parfaitement ce dossier. On entend Thomas Proutot qui dit les moyens, ils ont été très importants, vous confirmez.
Bien sûr.
Il y a même eu des équipes très spécialisées dans la recherche de cas, je pense à des légionnaires qui ont été déployés sur le terrain.
Oui, tout à fait, qui étaient parmi la centaine de gendarmes déployés au tout début. Il y a eu effectivement des militaires dans le sens opérationnel du terme, qui ont été déployés dans ces crevasses, dans ces trous, dans ces montagnes, pour pouvoir monter, redescendre. Donc c'est vrai que tout a été fouillé, tout a été ratissé. Et il faut quand même se rappeler, quand on voit sur une carte par-dessus, l'Auvernais, paraît montagneux avec du relief, mais c'est texte, il y a énormément de relief. C'est-à-dire que derrière le Vernet, il y a une pente, au-dessus du Vernet, ça
monte. Oui, il y a des apics comme ça.
Des apics, hein, etc. Il y a des ravins, il y a des trous, l'eau peut s'infiltrer, peut descendre. Donc c'est vraiment.
Et on peut trébucher et rouler, effectivement. Et se perdre, et surtout quand on a 2 ans et demi, il faut bien le répéter. Juste un mot, général François Daouze. Alors, il y a sûrement plusieurs possibilités, on en parle depuis un moment avec les invités de l'heure du crime, pour expliquer la mort d'Émile. Quelles peuvent être les hypothèses?
Alors, parmi les hypothèses, il y a bien sûr la première qui est celle, l'enfant s'est perdu. Et quand on retrouvera le point zéro où il y a le plus d'ossements, et notamment où on retrouvera ces petites chaussures, là on saura où c'était. Et cela va permettre de mieux comprendre ce qui s'est passé. Pour deux raisons, à la fois sur les ossements, est-ce que c'est une chute ou est-ce que c'est une action d'un tiers, donc d'un accident, et après on aurait déposé le corps. Les anthropologues et les médecins légistes apporteront des réponses avec l'étude de tous ces ossements. Et il y aura aussi l'analyse et l'étude de la faune et de la flore, les champignons certes, mais la faune, en particulier l'entomologie légale.
L'entomologie légale, c'est-à-dire l'étude des insectes, pour traduire ça banalement. L'entomologie légale, c'est quoi ?
L'entomologie légale, elle va permettre de voir les différentes escouades d'insectes nécrophages qui sont venus sur la dépouille du petit garçon. Si on retrouve toutes les escouades, celle qui vient à la première heure du décès et celle qui vient au dernier moment où il y a encore quelque chose qui peut les nourrir, on a une logique, c'est-à-dire que l'enfant est mort sur place, et il faudra voir ses chutes ou d'épuisement, soit il nous manque des escouades. C'est-à-dire qu'il nous manque les insectes de la première heure, du premier jour, du troisième jour, et on n'a que ceux du cinquième jusqu'à la fin. Ça veut dire que le corps aurait été déposé plusieurs jours après son décès.
Une découverte qui plonge la famille dans une peine infinie, elle est en première ligne depuis le début.
On a fait un périmètre pour sécuriser la zone et préserver cette zone. Donc nous avons des gendarmes, une centaine de gendarmes sont mobilisés pour sécuriser cette zone, éviter que la zone ne soit polluée, de manière à ce qu'on puisse procéder à de nouvelles investigations sur le site.
Dimanche 31 mars 2024, dans les heures qui suivent l'identification du crâne, retrouvé à proximité du hameau du Haut-Vernay, maître Jérôme Triomphe, avocat de Marie et Colomban Soleil, transmet leur réaction. Si cette nouvelle déchirante était redoutée, l'heure est au deuil, au recueillement et à la prière, écrivent les parents dans un communiqué. Ils disent remercier les enquêteurs et les juges pour leur professionnalisme, leur engagement personnel et leur humanité. Vendredi 24 novembre 2023, 4 mois avant la découverte du crâne, Marie et Colombin Soleil avaient lancé un appel à celui ou ceux qui savent ce qui est arrivé à Émile. La famille n'a désormais plus d'illusions sur la survie du petit garçon, mais elle ne sort pas pour autant du champ des investigations depuis le début. Les gendarmes se sont intéressés à la personnalité du grand-père de l'enfant, l'ostéopathe Philippe Vedovini. Curiosité obligatoire, car il est l'une des toutes dernières personnes à avoir vu vivant Émile. Son petit-fils était avec lui quand il a disparu. L'enquête avait mis en relief le caractère réputé très autoritaire de cet homme, prompt à s'emballer, selon certains témoins. Les enquêteurs avaient appris que le grand-père était cité dans une histoire remontant aux années 90, mis en cause pour des violences alors qu'il était surveillant dans une institution religieuse dans le Nord. Le grand-père n'a toutefois jamais été mis en examen et figure comme simple témoin assisté dans ce dossier. Et effectivement, cette famille a beaucoup souffert dans cette affaire. On vient de retrouver l'enfant mort. C'est une peine et une tragédie supplémentaire qui complète encore ce long chemin de croix. Maxime Lévy, journaliste police-justice à RTL, vous connaissez bien cette affaire, vous êtes allé sur place, vous avez vu cette famille, vous avez vu aussi, comme tout le monde d'ailleurs, les suspicions qui pesaient sur cette famille. Est-ce que elle est exonérée par les enquêteurs aujourd'hui, cette famille? Est-ce qu'elle est mise de côté ou bien elle est toujours au centre de l'enquête?
Non, c'est encore trop tôt. Elle reste au centre de l'enquête comme toutes les autres pistes qui sont étudiées par les enquêteurs. Ce n'est pas parce que une partie du corps du petit Émile a été retrouvée qu'elle va être écartée. En tout cas, on verra dans les analyses, dans les prochains jours, les prochaines semaines, si c'est le cas. Mais elle reste toujours au centre des investigations, tout comme l'enlèvement, tout comme la chute, tout comme l'accident. La preuve, d'ailleurs, elle avait d'ailleurs participé à une mise en situation la semaine dernière, à peine 4 jours où j'étais présent. Et elle était au cœur de cette mise en situation où les oncles et tantes, la grand-mère, la mère d'Émile, le grand-père, ont rejoué les derniers instants de la disparition d'Émile.
Et oui, et c'est bien normal, même si ça paraît gênant et lourd pour les familles, mais ce sont les dernières personnes à avoir vu vivant Émile, donc on leur accorde beaucoup d'importance. Thomas Proutot, on parle beaucoup des recherches dans cette émission, et forcément avec la découverte de ce crâne qui change tout, en tout cas qui modifie le paysage de l'enquête, mais il y a beaucoup d'investigations qui continuent, beaucoup plus discrètes.
Beaucoup plus discrètes, il y a eu une partie publique, c'était en novembre dernier, il y a eu 36 perquisitions dans des maisons du Haut-Vernay, du département et ailleurs en France. Les gens qui ont été retrouvés notamment grâce au bornage de leur téléphone, 1600 contacts téléphoniques, 1600 téléphones repérés. Et cette partie-là a abouti à la collecte d'une somme astronomique de données, notamment de données numériques, ordinateurs, téléphones. Et ça, c'est toujours en analyse aujourd'hui, c'est toujours en train d'être croisé avec aussi les dizaines, on peut dire les centaines d'auditions qui ont eu lieu depuis la disparition du petit Émile pour voir s'il y a une incohérence, un fil à tirer, un indice qui irait évidemment vers l'intervention d'un tiers, et cela évidemment ça se fait dans le plus grand secret de l'instruction par les juges. On ne sait pas véritablement ce qu'ils ont pu trouver, et c'est en cours en ce moment, en parallèle de ces nouvelles recherches qui ont démarré depuis hier.
C'est une terrifiante position pour la famille, Maxime Lévy.
Bien sûr. C'est à la fois être sous le coup des suspicions et être victime de la disparition de son enfant. Donc c'est vrai que on peut comprendre la douleur de cette famille.
François Daoust, vous êtes ancien directeur de l'IRCGN, l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale, et vous êtes avec nous dans cette heure du crime. On l'a dit au début de cette émission, dispositif exceptionnel de l'IRCGN. D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'est engagé dans cette affaire. Il a demandé que tout soit mis en œuvre pour qu'on découvre la vérité. Le crâne, c'est étonnant, mais j'ai rarement vu ça. Le crâne a été tout de suite expertisé, après avoir été saisi sur place, et tout de suite expertisé dans la nuit.
Alors, ce qui est exceptionnel, c'est la remontée immédiate du crâne au laboratoire. Cette remontée immédiate, c'était ne pas perdre de temps, ne pas laisser de faux espoirs, hein, si on peut parler d'espoir en l'espèce quand on retrouve une boîte crânienne. Surtout, l'identification de cette boîte crânienne. Donc c'est ça qui comptait dans un premier temps. Et il a été porté, le crâne, par hélicoptère. Ils ont travaillé la nuit pour faire l'extraction ADN. Et rapidement, comme il y avait de l'ADN exploitable, on a su que c'était le petit Émile.
Docteur Caroline Rambaud, un mot là-dessus. Vous êtes médecin légiste à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches et vous nous aidez à mieux comprendre cette affaire. Est-ce que ces recherches sur le crâne peuvent continuer très longtemps encore ou bien finalement on va vite faire le tour de cet examen?
Oh, je pense qu'on va vite faire le tour parce que la question essentielle est de savoir s'il y a une lésion traumatique dessus ou pas. À partir du moment où on a cette information, le reste après doit suivre avec le plus important maintenant, c'est la reconstitution du corps, si on peut arriver à retrouver tous les os.
Est-ce qu'il y a une difficulté à travailler sur des enfants ou pas? Sur des ossements d'enfants, c'est particulier ou pas?
Ben, c'est particulier dans le sens qu'il y a beaucoup de cartilage encore et que le cartilage se conserve mal. Donc on garde que les parties ossifiées du squelette. Et notamment pour tout ce qui est cartilage thyroïde, osioïde, en fait, ils sont à peine ossifiés. Et ces lésions qui pourraient y avoir, qui sont typiques des strangulations, des étouffements, peuvent ne pas être visibles dessus parce que c'est cartilagineux.
Un crâne découvert est dans le hameau une toute nouvelle enquête qui démarre. Lundi 1er avril 2024, les gendarmes se lancent dans une nouvelle course contre la montre autour du Haut-Vernet, hameau de 25 habitants, à nouveau interdit aux visites et fermé aux curieux. Le défi est de taille, il s'agit d'explorer avec minutie tout un périmètre escarpé d'un rayon d'environ 2 km, là où le crâne d'Émile a été découvert. La découverte d'autres ossements est capitale pour mieux comprendre ce qui a pu arriver au petit garçon, tout comme la découverte de ses vêtements, même en lambeaux. Dans l'affaire de la petite Maëlys, les mêmes experts de l'IRCGN avaient pu établir que la petite fille avait été frappée après avoir examiné son crâne et sa mâchoire. Des lambeaux déchirés de sa robe blanche avaient également amené des informations importantes pour la reconstitution d'un scénario criminel. Les gendarmes ouvrent un chapitre nouveau dans le dossier Émile. L'acte 1 s'est terminé avec la mise en situation dans le village, toute une série de vérifications et d'auditions de témoins. Nous voici donc à l'acte 2. Tout est différent désormais car nous avons désormais une certitude. Le petit garçon est mort et nous disposons d'un premier élément matériel, à savoir des ossements, indique un enquêteur au lendemain de la découverte. Il va falloir désormais savoir si un départ sans but précis du petit Émile, qui à ce jeune âge aurait pu facilement se retrouver désorienté au milieu des prairies, est cohérent avec les divers témoignages qui figurent au dossier. Et ces divers éléments, bah, ils sont très nombreux parce que le dossier il est très important. Il y a eu une enquête très longue, des dizaines, peut-être même des centaines d'auditions, des personnes recherchées, de la téléphonie. Et puis il y a cette mise en situation, deux jours avant la découverte du crâne. Maxime Lévy, vous connaissez bien cette affaire, vous la traitez pour RTL, journaliste police-justice dans cette maison. Cette mise en situation, on a beaucoup glosé là-dessus, on se demandait un peu qu'est-ce que ça venait faire, trop tôt, trop tard, enfin bon, peu importe, pas de polémique, mais... Les informations recueillies, elles vont servir à quelque chose.
Ah ben, j'ai même envie de dire que la mise en situation va être encore plus précieuse que jamais. C'est-à-dire que là, on a retrouvé des ossements du petit Émile. La question qui se pose, c'est comment ils sont arrivés là. Et il se trouve qu'il y a eu une mise en situation il y a trois jours, justement, qui servait à rejouer les dernières minutes, les dernières heures de la disparition d'Émile pour savoir où est-ce qu'il avait pu partir, dans quel sens, etc. Et donc là, on pourrait peut-être potentiellement, grâce à cette mise en situation, alimenter et apporter des réponses après la découverte de ces ossements.
Mais oui, donc vous voyez, donc ça sert à quelque chose. Maintenant, on a ces éléments et qui vont compléter les découvertes techniques, peut-être d'autres ossements, ce qu'on souhaite, mais qui vont compléter toutes ces découvertes. Général François Daoust, ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Alors l'alerte, elle a été donnée très vite par la grand-mère, on l'a beaucoup raconté, plusieurs adultes qui partent à la recherche d'un enfant enfants de 2 ans et demi. Ben, les adultes, général Daoust, ça marche forcément plus vite qu'un enfant. Alors c'est bizarre qu'on ne l'ait pas retrouvé tout de suite, ce gamin.
Quand elle donne l'alerte, l'enfant a disparu peut-être de beaucoup plus longtemps qu'on ne croit. Et ce qui se passe dans un premier temps, c'est qu'on cherche dans la maison, aux abords de la maison. On insiste en partant du principe que l'enfant ne peut pas partir loin et qu'il reste près de là où il a ses références. Tout ce temps perdu, c'est autant de temps pour l'enfant de continuer à progresser. Et comme on ne connaît pas les directions qu'il a empruntées, même si un moment viendra le témoignage de deux personnes qui diront « on l'a vu près de la fontaine », mais est-ce qu'il est remonté, est-ce qu'il est redescendu? Et s'il est descendu, vers où? En passant à travers quoi? C'est là où on a un champ de possible de 180 degrés et chercher, plus on s'éloigne de ce point de départ de recherche, plus on imagine que l'arc de cercle est très grand et très difficile pour choisir la bonne direction pour retrouver l'enfant.
Juste encore un mot, François Daoust, ici c'est garé cet enfant, pourquoi pas? La déshydratation d'un petit garçon, 2 ans et demi, elle survient après combien d'heures?
Ça dépend de la météo, ça dépend de est-ce qu'il avait pris un biberon avant, est-ce qu'il avait, il s'était déshydraté avant de partir ou pas. Mais ce que l'on sait, c'est que les 24 premières heures en plein mois de juillet, avec la chaleur qu'il faisait, sont déterminantes. Après, c'est certainement un évanouissement, voire un coma, et la mort surviendra dans les 48 heures rapidement.
Docteur Caroline Rambaud, médecin légiste à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches, qui est avec nous depuis le début de cette heure du crime. Docteur, on a le sentiment que cette affaire, et il y en a bien d'autres, des affaires criminelles ou des affaires judiciaires, que cette affaire, elle est suspendue aux conclusions des légistes et des anthropologues. Vous avez une très grosse responsabilité dans ce genre de dossier, docteur Rambaud.
Oui, mais pas aussi importante que celle des enquêteurs. Parce que le squelette peut donner des indications uniquement s'il y a des traces dessus. Or, il peut y avoir des traces de morsures d'animaux, il peut y avoir aucune trace du tout, et auquel cas, on est très désarmé pour arriver à faire une hypothèse sur la cause du décès.
Est-ce que vous pensez, lorsque il y avait, c'est un petit garçon là, c'est un crâne d'un petit garçon, est-ce que vous pensez à la famille, vous, légiste, quand vous autopsiez ce genre d'enfant?
Mais pas immédiatement, on y pense avant et on y pense après, mais pendant qu'on est en train de travailler, en fait, on a l'esprit qui est occupé par les protocoles à suivre, la marche à suivre et autres, et c'est pas vraiment le temps pour penser à la famille, on y pense vraiment après.
Investigation relancée où plus que jamais le moindre détail compte.
L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
Quelques semaines avant la découverte d'ossements du petit Émile Soleil, les juges d'Aix-en-Provence chargés du dossier avaient fait savoir à la famille que tout était mis en œuvre pour élucider ce mystère. La mise en situation dans le hameau le jeudi 28 mars et pour laquelle 17 personnes étaient convoquées, dont les grands-parents de l'enfant, avait pour but de présenter une lecture nouvelle de l'affaire. Les parents d'Émile n'ont désormais plus aucun espoir de retrouver leur fils vivant. Les restes de la dépouille devraient rester entre les mains des experts pour de longues semaines encore.
C'est un drame qu'un enfant de 2 ans et demi soit décédé dans des circonstances sans doute tragiques. Une grande pensée pour Émile, pour sa mémoire et puis pour ses parents. Maintenant, il faut savoir comment cette partie de corps est arrivée là. On sait que maintenant, il est décédé. De quoi est-il décédé?
Les interrogations de François Balic, c'est le maire du Haut-Vernet. Il était avec notre envoyé spécial sur place, Étienne Baudu. Maxime Lévy, vous êtes journaliste police-justice à RTL. Décidément, ce hameau du Haut-Vernet vit au rythme de l'affaire Émile depuis maintenant 9 mois. Le hameau est à nouveau fermé à l'heure à laquelle nous parlons. Il est fermé, cet hameau, c'est clos, c'est comme un huis clos. Huis clos qui semble jamais se terminer.
C'est sûr, d'autant qu'il a été fermé, je pourrais même plus les compter, ça fait 10 fois depuis 9 mois. En plus, il faut savoir, j'étais encore la semaine dernière au Vernet, il faut savoir que là-haut, en hiver, il y a encore moins de monde parce que les saisonniers ne sont pas là. Donc c'est-à-dire que les quelques habitants, ils se comptent vraiment sur le doigt d'une main, ils sont 3-4 qui vivent dans le hameau, vivent effectivement au gré des fermetures. À chaque fois qu'il y a les journalistes qui se déplacent, ils sont plus nombreux que le nombre d'habitants. À chaque fois que les gendarmes se déplacent, ils sont plus nombreux que le nombre d'habitants. Donc c'est vrai qu'ils vivent dans cette atmosphère mystérieuse de chape de plomb, tous les volets sont fermés, même le bistrot est fermé. Donc c'est vrai que c'est quand même assez particulier.
C'est obsédant, oui, il y a quelque chose d'un peu terrifiant. Et encore une fois, Maxime Lévy, aujourd'hui le plus petit détail, la plus petite découverte, même une confidence, peu importe, un témoignage, ça a une importance folle.
Bien sûr, toujours, même s'il y a eu des avancées sur le terrain avec la découverte des ossements, mais évidemment que les enquêteurs comptent toujours sur les témoignages, comptent toujours sur même un anonyme qui pourrait livrer une petite phrase, effectivement, ça compte toujours.
Docteur Caroline Rambeau, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Vous êtes médecin légiste et vous travaillez à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et vous nous aidez à mieux comprendre cette affaire. Docteur, il faut bien le dire, aujourd'hui, je suppose que les légistes, s'il n'y a pas eu de traces de coups constatés, on ne le sait pas très officiellement si ce crâne a été touché ou pas. C'est le secret des investigations. Il faut vraiment attendre d'autres ossements pour que finalement le paysage s'éclaircisse, le paysage de la médecine légale, j'entends.
Comme vous venez de le dire, tout dépend s'il y a des lésions sur le crâne ou pas. S'il n'y a pas de lésions sur le crâne, c'est l'exploration de tous les autres os qui pourront être découverts qui va permettre de savoir s'il y a eu des lésions traumatiques ou pas. Mais en l'occurrence, pour l'instant, en fait, on ne sait pas bien. Les lésions traumatiques, la zone qui est la plus mortifère, si je puis dire, c'est-à-dire c'est quand même le crâne. Oui. Donc il faudrait vraiment savoir s'il y a des lésions sur le crâne ou pas.
Oui, c'est ça, c'est le plus important. Effectivement, on a l'élément capital. Est-ce qu'il va parler ? Ça, c'est une grande question. Général François Daous, vous êtes avec nous, ancien patron de l'IRCGN, c'est l'Institut de Recherche Criminelle de la Gendarmerie Nationale. Combien de temps, selon vous, vous connaissez bien ce genre d'affaires et vous êtes un expert en la matière, combien de temps peuvent durer ces recherches dans ce secteur accidenté de montagne ?
Alors, les recherches vont durer assez longtemps, jusqu'à ce que l'on ait retrouvé le point zéro, c'est-à-dire l'endroit où il y a le plus d'ossements et certainement les restes de ces vêtements, encore que les vêtements, un t-shirt, c'est assez fragile et ça aurait pu être désagrégé par les intempéries, mais en revanche, les chaussures doivent être à proximité. Donc, retrouver ce point zéro est essentiel, même si l'on sait qu'une partie des ossements ne sera pas forcément sur place, du fait de la prédation et aléas climatiques. Mais on saura où c'est, et c'est pour ça que les enquêteurs et les équipes spécialisées veulent absolument trouver ce point zéro, parce que il va apporter lui aussi énormément de réponses.
Justement, lesquelles alors ces réponses ?
Est-ce que un petit garçon pouvait arriver jusqu'à ce point tout seul ou pas ? Si c'est ultra accidenté et qu'il n'y ait pas de traces de chute, de fracture ou autre, et que le corps soit là, en tout cas les restes du corps, il y aura d'autres questions que les médecins légistes et les anthropologues apporteront. Mais il faut absolument retrouver ce point-là et si possible tous les ossements pour pouvoir reconstituer la dépouille de l'enfant, ne serait-ce pour comprendre. Et puis, pour donner à la famille l'ensemble du corps et pouvoir réellement, après, l'enterrer et faire le deuil qu'ils attendent.
Et oui, un deuil qui est difficile à faire pour cette famille. Maxime Lévy, vous êtes avec nous dans l'heure du crime. Vous connaissez, je l'ai dit, bien cette affaire. Vous êtes en contact avec des enquêteurs, des personnes qui travaillent sur le dossier. Est-ce qu'ils sont confiants aujourd'hui ? Est-ce que cette découverte, finalement, a changé le visage de l'enquête ? Est-ce qu'ils ont le sentiment d'avancer ?
C'est une découverte fondamentale, ça c'est sûr, c'est ce que nous disent les enquêteurs. D'autant plus qu'on part quand même d'une scène de disparition un peu vague d'il y a 9 mois, où en 9 mois on a toujours cette scène de disparition. Donc il y a eu, Thomas Proutot l'a raconté, il y a eu des perquisitions, ils ont sondé des lacs, ils ont sondé des dalles de béton, et il n'y a pas eu beaucoup d'avancées en tout cas. Et là, on a maintenant, sans préjuger de ce qu'il va y avoir, une scène de crime. Donc ça veut dire que c'est une avancée phénoménale. Maintenant, il faut avoir la deuxième partie du mystère qui est: qu'est-ce qu'il y a ?
Scène de crime ou pas ?
Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, c'est une scène de découverte de corps. On n'a plus seulement une scène de disparition.
Et est-ce que, juste encore un petit mot, est-ce que dans ce village, l'Auvergnat, que vous nous avez très bien décrit dans cette heure du crime, on se regarde un petit peu en chien de faïence, on continue à avoir des suspicions et un climat toujours aussi lourd qui règne ?
Ça dépend à quel habitant on parle. Oui, il y a des habitants qui qui vont toujours de leur petite anecdote, qui vont toujours de leur petite hypothèse. Et puis il y en a d'autres qui ne veulent pas du tout rentrer là-dedans et qui justement aimeraient bien que un jour cette affaire se tasse.
Général François Darousse, pardon, je termine cette émission avec vous. Finalement, ce qu'on dit depuis une heure, c'est que la question cruciale reste de savoir si le petit Émile est mort dans ce coin isolé ou s'il a été transporté ici. C'est la grande question.
Exactement, c'est tout à fait ça. Les deux hypothèses principales sont, eh bien, c'est vraiment un enfant qui s'est perdu et qui est mort d'épuisement ou d'une chute, ou c'est un enfant qui a été accidenté par un tiers qui est venu le déposer. Entre quel moment et quel moment, ça, on le saura peut-être avec les insectes nécrophages, mais on verra la différence, et c'est la grande question. Il faut pour ça qu'on retrouve l'ensemble des restes de l'enfant.
Merci beaucoup, général François Daoust, Maxime Lévy, Thomas Proutot et le docteur Caroline Rambaud, légiste, d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime en direct. Merci à l'équipe de l'émission, rédaction en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, réalisation Nicolas Godet.
Jean-Alphonse Richard sur RTL.
L'heure du crime.